Et mon message ce matin s'intitule tout simplement « Quand l'étau se resserre ». Quand l'étau se resserre. Et comme vous le savez tous, c'est une expression qui décrit le fait de se retrouver dans une situation difficile, de plus en plus compliquée et même sans issue. Et j'ai utilisé cette image pour l'illustrer un peu. On voit bien une figurine qui se retrouve entre un étau serré. Et pour qu'elle ne se brise pas sous l'effet de la pression, trois options s'offrent à cette figurine. Soit la personne qui serre l'étau décide d'arrêter. Soit une tierce personne l'y oblige à arrêter de serrer l'étau afin que la figurine soit libre. Troisième option, soit la figurine est faite d'une matière ou d'un matériau qui est plus dur et plus résistante que celle avec laquelle l'étau est faite. Alors dans ce cas, à force de serrer l'étau va se briser lui-même et la figurine va sortir intacte. Parfois, il peut y avoir quelques égratignures, mais ce n'est pas grave. Mais vous convenez avec moi que la troisième option arrive rarement, très rarement. Ce matin, je ne parlerai pas de l'étau qui se resserre autour d'une personne qui vit la persécution dans sa foi en Jésus-Christ, mais plutôt l'étau qui se resserre lorsque nous traversons les épreuves de la vie. D'une certaine manière, nous sommes persécutés par nos propres faiblesses, par nos luttes, nos défis de tout genre, jusqu'à ressentir comme si on était à un doigt d'exploser et de partir en plusieurs morceaux. Et vu que nous sommes des êtres fragiles de nature, il ne nous reste souvent que deux options. Soit la personne qui nous oppresse arrête, ou qu'on crie à Dieu, « Viens me secourir !» Et à ce moment, il vient briser l'étau qui nous resserre et on peut souffler à nouveau. Et l'apôtre Paul, qui s'est déjà senti plusieurs fois pris dans un étau qui se resserre, va dire ceci dans 2 Corinthiens 4, versets 8 à 9. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattu, mais non perdu. Amen. Je peux dire que nous tous ici présents, ou qu'on soit en ligne, on s'est déjà senti au moins une fois pris dans un étau, sous pression, pressé de toute manière. Et peut-être certains d'entre nous ce matin sont présentement dans un étau qui les resserre, qui les empêche de respirer, qui les oppresse. Une pression qui pousse à la dépression, à l'abattement et au découragement. On peut se sentir abandonné par tous et même abandonné de Dieu. La parole qui est sortie ce matin est avec la prière de pasteur Jean-Fred, m'ont comme tracé le chemin. C'était quelque chose que Dieu mettait vraiment fort sur le cœur ce matin également. C'est peut-être une personne qui est dans une condition de santé physique ou mentale et cette personne s'attend à une intervention de Dieu qui tarde à venir. Une personne seule qui soupire au mariage et qui est épuisée d'attendre. Cette personne peut même parfois vivre une certaine angoisse en appréhendant la période des fêtes, à toutes ces questions qui lui seront posées. Je peux également parler ce matin d'un couple qui attend en vain la naissance d'un premier bébé, d'un premier enfant, et qui voit l'horloge biologique filer à toute vitesse, avancer à grande vitesse, et qui perd courage. Ça peut être aussi quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi, cet emploi pour lequel on prie depuis des années. Et plus le temps passe, tu peux avoir l'impression que l'emploi s'éloigne davantage. Il n'y a rien à l'horizon qui te dit qu'il va avoir une issue favorable. On peut être découragé, on peut être abattu. Et je pourrais parler de plein d'autres situations, comme par exemple un mariage qui au départ était perçu comme une bénédiction. Et aujourd'hui, elle est éclatée, elle part en fumée, en plusieurs morceaux. Et seul Dieu peut se lever et recoller ces morceaux qui sont brisés. Et si ce matin tu te retrouves plus ou moins dans cela, je veux t'encourager, comme pasteur Jean-Fred l'a prié ce matin, à relever la tête, à effacer tes pleurs et à tourner tes regards vers Jésus. Il est celui qui console, qui rémunère ta foi et qui arrête la pression de l'étau en te donnant en retour sa paix et sa joie. Cette joie qui surpasse toute intelligence, pas parce que la situation est réglée, mais parce que il dépose une joie indescriptible dans ton cœur, une espérance qui ne peut que venir de lui. Dans Jacques 1, verset 2, il y a cette magnifique parole pour tous les chrétiens en Jésus-Christ. Jacques 1, verset 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Amen. Est-ce que vous dites vraiment amen à ça? Non, soyons sincères. Moi, première lecture, je n'ai pas dit amen. Je vais être honnête avec vous. Et c'est vrai que quand on lit ce verset la première fois, ou lorsqu'on se l'a fait dire une première fois, on a le goût de dire à Jacques, « Jacques, es-tu vraiment sérieux? Dis-moi que c'est une blague. Comment veux-tu que je voie mon épreuve comme un sujet de joie complète? » À ce que je sache, personne d'entre nous ne se révèle le matin qui dit, hey, « Seigneur, je veux que tu me donnes des épreuves afin que je puisse expérimenter une joie complète. » Non, non, moi je ne prie pas comme ça. Moi je prie, « Seigneur, garde-moi de toute épreuve. Je veux goûter à ta joie ce matin. Tout au long de l'année, je veux goûter à ta joie. » Mais au fil des années, j'ai appris à ajouter une autre phrase à ma prière. « Seigneur, même dans les épreuves, garde-moi près de ton cœur. Garde-moi près de ton cœur. Ne permets pas que je tombe. Ne permets pas que je perde ma foi. Mais donne-moi ta joie. Donne-moi de continuer à espérer en toi. Donne-moi de continuer à regarder à toi. Et je sais que tu traceras un chemin. Tu me montreras la direction que je dois suivre. Tu me donneras des personnes qui vont m'encourager, comme le frère nous a apporté cette parole de connaissance ce matin. Et ce matin, quand je suis rentré dans l'église, j'ai parlé avec une personne qui m'a dit, moi je m'attends à ce que Dieu me parle ce matin. Je m'attends à ce que Dieu se révèle à moi ce matin. Et je crois que Dieu l'a déjà commencé. Et la personne se connaît. Je sais qu'elle dit « Amen » en ce moment même. Et j'aime tellement quand la parole de Dieu nous défie. Et je peux vous dire avec assurance que quand nous lui faisons confiance, le surnaturel prend inévitablement place. Lorsque on se fie réellement à la parole de Dieu, cette parole qui est inébranlable, le surnaturel prend place dans nos vies. Mais le plus difficile, c'est ce pas de foi qui est parfois lourd, parfois difficile à lever et qui peut parfois sembler tellement irréaliste, qui est notre gros défi. Faire ce premier pas de foi, à recevoir la parole, à croire à la parole, à s'accrocher à la parole et à la voir faire son effet. Et souvent, nous voulons croire seulement avec ce que nous voyons ou ce que nous touchons, alors que Dieu travaille dans l'invisible. On l'a chanté, alors que je ne sens rien, je ne vois rien, Dieu y travaille, Dieu y sent des choses, il voit des choses que nous ne voyons pas. Faisons-lui confiance ce matin. Croyons en sa parole. Et comme le soutient Jacques, j'aimerais vous poser la question ce matin, y a-t-il vraiment un bienfait à tirer de nos épreuves? Est-ce qu'il y a un bienfait quelconque à tirer de nos épreuves? Lisons la suite du verset 3 et nous comprendrons pourquoi Jacques parle ainsi. On va lire ça sous peu. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accompli sans faillir en rien. Amen. Et à travers les épreuves, nous développons la patience. Voilà pourquoi Jacques nous dit de regarder les épreuves par lesquelles nous passons comme un sujet de joie parfaite. Et très souvent, avant que la patience n'accomplisse pleinement son travail, son œuvre, c'est long. C'est long, ça prend du temps. Et ça prend tellement du temps que parfois, on perd courage, on perd patience, on perd espérance en Dieu. Et on se doit de cultiver cette patience. Et si vous ne le savez peut-être pas, laissez-moi vous rappeler que Dieu ne nous a jamais promis une vie sans épreuve, une vie sans problème. C'est de l'utopie. Ce qu'il nous a promis, c'est que même dans les épreuves, il est là. Il se tient à nos côtés. Il nous prend par la main. Il ne nous délaisse pas. Il nous conduit. Il nous soutient, il nous fortifie, il nous envoie des gens, il nous encourage à demeurer ferme en lui. Et je m'en vais ce matin vous poser une seconde question. Comment vous, vous réagissez lorsque l'étau se resserre autour de vous? Lorsque dans vos situations, dans vos épreuves, vous ne voyez pas d'issue, vous ne voyez pas la lumière, vous ne voyez pas un soupçon de réponse pointé à l'horizon. Rappelons-nous ce que Jacques 1, 3 va dire. L'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et le mot-clé ici, c'est patience. Patience, qui est une vertu spirituelle, un fruit de l'esprit qui reflète la confiance en Dieu et la persévérance face aux épreuves. Elle ne se limite pas à attendre de façon passive, mais elle implique une attitude active de foi et d'espérance. Galates 5, verset 22 nous dit ceci, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. » La tempérance. Et 23 dit, la loi n'est pas contre ces choses. Et remarquez très bien ici que quand on parle de la patience, du fruit de l'esprit, on ne parle pas d'un don de l'esprit. Ce n'est pas quelque chose qui nous est donné comme cadeau. On parle d'un fruit de l'esprit. On parle de quelque chose qui se cultive. On reçoit la semence dans la terre. On l'arrose saison après saison, il pousse, devient mûr et prêt à être consommé. On peut savourer ce qu'on a cultivé. Et si on veut goûter à la saveur de la patience, nous devons de la cultiver. Nous devons de l'arroser. Nous devons de l'entretenir, de la préserver. Et quand ce texte a été écrit, la technologie n'existait pas encore. Le micro-ondes n'avait pas été encore inventé, ni Amazon Prime. Et pour les premiers lecteurs, je crois que c'était relativement plus facile de patienter. Mais nous, nous faisons face à un vrai challenge aujourd'hui. Un vrai challenge. Avec l'évolution de la technologie, nous faisons face à un vrai challenge. Nous sommes dans l'ère qu'on appelle l'ère de l'instantanéité. On veut quelque chose aujourd'hui, on l'a dans la journée même. On peut se la faire livrer la même journée ou au plus grand tard, demain matin. Tu commandes. Je ne veux pas agacer mon épouse, mais je veux vous raconter une petite histoire rapidement. Récemment, on revenait du travail, puis je n'avais pas prévu ça, mais je vais le dire. On sort du travail, puis elle se rend compte qu'elle a oublié ses écouteurs au travail. Puis elle a cherché 2 minutes. Et son premier réflexe, c'est de prendre son téléphone Amazon. Puis je dis, tu fais quoi? Tu veux commander d'autres écouteurs? Elle a eu un peu honte. Elle a dit, non, je veux juste voir combien ça coûte. Si jamais je ne retrouve pas mon écouteur, si jamais je ne retrouve pas mes écouteurs, je vais pouvoir les commander. J'ai dit, mais prie. Prie pour que tu retrouves ton écouteur. Toi qui aimes prier, prie. Elle a retrouvé. Et je crois personnellement que cette tendance à avoir les choses rapidement et facilement, bon, si on a une bonne carte de crédit, bien sûr, nous joue des tours dans notre foi, dans notre marche avec Dieu. On n'est plus habitué à attendre Dieu patiemment. On n'est plus habitué au délai. On veut la chose rapidement. On prie, on veut des réponses rapides, miraculeuses. Et on ne laisse pas Dieu nous travailler. On ne laisse pas Dieu nous amener à lui pour se faire connaître davantage à nous, pour nous rendre dépendants à lui. Et nous ne savons plus attendre. Et lorsque la réponse de Dieu tarde un peu à venir, nous sommes sous pression, déstabilisés et parfois même perdus. Du coup, nous paniquons et pire encore, nous cherchons à aider Dieu. C'est vrai, hein? Est-ce que vous aidez Dieu? En passant, il n'a pas besoin de votre aide. Il est grand suffisamment. Toutes les fois, j'ai essayé d'aider Dieu, ça tournait mal. Toujours. Et je n'espère même plus l'aider pour que ça tourne bien. Et finalement, nous passons carrément à côté du plan de Dieu pour nous. Et le fruit, la semence qu'il a déposée en nous, cette petite semence de patience en nous, ne grandit jamais. Et pire encore, cette semence finit par mourir, faute de recevoir l'eau de vie qui découle d'une communion sincère et authentique avec Dieu. Alors que tu attends Dieu, tu n'as d'autre choix que de chercher son cœur, que d'aller creuser dans les profondeurs de son amour. Et là, il se révèle à toi. Tu le découvres. Tu te laisses désaltérer. Tu te laisses rafraîchir. Alors que tu ne comprends pas tout, il y a une voix douce qui te rappelle qu'il est là avec toi dans la barque, qu'il n'est jamais loin et que tu peux t'attendre à lui. Et le mot patient dans la Bible vient de deux mots grecs, macrotumia et hypomone. Le premier, macrotumia, désigne la patience ou la longanimité de Dieu ou des hommes. On peut dire que Dieu est lent à la colère, mais riche en bonté. Et le second mot, hypomone, désigne la persévérance ou l'endurance des chrétiens dans les épreuves. Et ces deux termes, la langue française les a réduits à un seul mot, patience, qui désigne en fait l'attitude inébranlable de celui qui ne cède pas face à la pression, face aux épreuves de la vie et dans l'étau qui se resserre autour de lui. Cette personne reste ferme, il reste inébranlable. Il ressent certes la douleur, ça lui fait mal, mais il reste inébranlable en gardant ses yeux fixés sur Dieu. Ça, c'est la patience. La patience est donc une vertu que nous, les chrétiens, devrions continuellement cultiver en attendant le retour de notre Seigneur Jésus. Et nous nous devons également de faire preuve de patience à l'égard des uns des autres, à l'égard de nos frères et sœurs qui pratiquent la foi avec nous. Nous devons faire preuve de patience à l'égard de nos parents, de nos grands-parents, à l'égard de notre conjointe, à l'égard de notre conjoint, à l'égard de nos collègues de travail, à l'égard de nos amis. Nous devons faire preuve de patience dans nos relations également. Et si nous refusons cela, nous n'allons que traîner des blessures après blessures. Et finalement, nous allons sortir amers et frustrés de la vie. Nous ne profitons pas de la joie que Dieu nous donne dans cette vie. Et quand j'étais enfant, quand j'étais ado, j'avais la réputation d'être un ado calme et patient. Je ne le suis plus aujourd'hui. Je ne suis plus un ado. J'avais vraiment cette réputation d'être un ado patient, calme et tout, poli. Et je me souviens très bien, dans les années 90, le Togo, mon pays d'origine, a traversé une grave crise politique. Et les écoles étaient fermées, on perdait complètement l'année scolaire. Et j'avais accepté de quitter le Togo avec un de mes oncles et sa famille pour aller au Bénin, pour pouvoir sauver l'année scolaire. Et on est parti comme des réfugiés, puis on est allé rester dans une maison, une grande maison, avec d'autres familles qui ont trouvé refuge également dans cette maison avec nous. Et il y avait plein d'ados, on était plusieurs ados, avec des tempéraments différents, on a tous reçu des éducations différentes. Puis pour ceux qui me connaissent, j'aime faire la sieste. Je vais en faire encore cet après-midi. J'adore faire la sieste. Et un après-midi, alors que je faisais ma sieste, j'entendais un bruit qui m'agaçait. Un vrai bruit qui m'agaçait. Puis j'ai décidé de sortir pour aller dire à la personne qui faisait le bruit d'arrêter parce que Simplice fait sa sieste. Puis je sors parce que la personne était en train, c'était une jeune ado du même âge que moi. Et souvent en Afrique, on a dans les maisons ce qu'on appelle un puits d'eau. On puisait de l'eau dans ce puits-là. Puis elle, cette jeune fille, prenait le seau qui était en aluminium. Elle lançait dans le puits, sortait le seau, puis ça cognait le bord du puits. Ça faisait un bruit vraiment atroce. Puis je sors, je lui dis, juste pour lui dire poliment, patiemment, arrête de faire ça, on est en train de faire la sieste et tout. Avant même que je ne termine ma phrase, je sens une forte imposition de main sur ma joue. Je ne sais plus si c'est la joue gauche ou la joue droite. J'entends « paf !» Je viens de recevoir un soufflet. Puis, je ne connaissais pas encore le verset qui dit « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. » Et ma main droite, émue de compassion... sans même m'avertir, s'est levé, puis appliquer la loi de œil pour œil, dent pour dent. Et ceux qui étaient témoins de la scène se sont exclamés, « Ouh, Simplice a perdu sa patience. Il a perdu son don. » Depuis ce jour, j'ai compris que la patience n'est pas un don. C'est un fruit qui se cultive saison après saison. Il y a des saisons dans nos vies où on se dit, hey, moi je suis patient, j'ai la patience. Mais il y a d'autres saisons qui arrivent, on la perd complètement. Et ça nous rend humbles. Ça nous décourage parfois. Ça nous frustre parfois. Moi, il y a des combats que je pensais avoir gagnés depuis longtemps. Mais quand on est marié... Le combat n'est jamais fini. Mais Dieu nous donne des armes pour ça. Tous les mariés peuvent dire amen ce matin. Et ceux qui ont des enfants également. On a besoin de la patience. On a besoin de la patience pour traverser nos épreuves. On a besoin de la patience pour tenir ferme. On a besoin de la patience pour goûter aux bonnes choses de Dieu. Que Dieu nous vienne vraiment en aide à pouvoir garder la patience. Et on le sait tous, ceux qui ont été à l'école ou qui ont suivi une formation, toute formation qui se veut sérieuse, vraiment, à la fin, il y a une évaluation, il y a un test, il y a un examen à passer. Et souvent, lorsque nous demandons dans nos prières, ça, c'est des prières dangereuses qu'on fait. Vous demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi la patience. Sachez qu'il va avoir un examen. Sachez qu'il va avoir un examen. Un petit test où Dieu va tester votre capacité de patienter. Et parfois, il peut nous arriver de réussir cela avec brio ou avec un échec. Mais Dieu, il est bon. Il est lent à la colère, riche en bonté. Et il ne nous condamne pas. Il nous donne encore une deuxième chance, une troisième chance. 1000 chances pour qu'on puisse se rattraper. Que Dieu nous vienne en aide. Et regardons rapidement ce matin 4 personnages dans la Bible que nous admirons pour leur confiance en Dieu, leur patience et leur persévérance dans les épreuves. Premièrement, on parle d'Abraham. Hébreux 6, verset 15 va dire, « Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. » L'histoire d'Abraham nous montre que les promesses de Dieu sont pour ceux qui font preuve de patience et de foi. C'est parce qu'Abraham a patiemment attendu qu'il a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Job 1, verset 21, il va dire, « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Personne d'entre nous n'aimerait vivre son expérience, même connaissant la fin glorieuse qu'il a eue après toutes ces épreuves. Et face à l'intensité de l'épreuve, sa propre femme va lui dire, « Hey Job, maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurs. Qu'as-tu donc encore à espérer en Dieu? De toute façon, tu as tout perdu. Maudis-le et tu iras en paix. » Non. Certes, Job a tout perdu, mais il y a deux choses qu'il n'a pas perdues. Sa patience et sa confiance en Dieu. Rien ne pouvait l'ébranler. Les richesses de ce monde ne pouvaient pas l'empêcher de garder sa foi et sa confiance en Dieu. Parce qu'il connaissait son Dieu. Il connaissait les profondeurs de son Dieu. Il savait que son Dieu est celui qui honore sa promesse. Ce n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Ça peut prendre du temps. Mais pour cela, il met à notre disposition un merveilleux fruit, qui est la patience. Dans l'attente, cultive la patience. Cultive-la. Et ça va porter du fruit. On parle de David. 1 Samuel 26, verset 1. 11. « Loin de moi par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel. » Et David, bien qu'il eût l'occasion de tuer Saül dans la caverne d'En-Gedi, David va refuser de toucher à loin de l'Éternel, à celui qui a été choisi par l'Éternel pour régner sur Israël. Sa patience est un exemple puissant dans la Bible, surtout dans la période où il était appelé à devenir roi, mais devait attendre longtemps le moment fixé par Dieu. Il avait été oint par le prophète Samuel comme futur roi d'Israël, mais Saül était encore sur le trône. Et pendant des années, David a vécu comme fugitif. Il a été poursuivi par Saül qui voulait sa peau, qui voulait le tuer. Mais dans tout cela, David n'a jamais cherché à précipiter les choses. Il a choisi d'attendre que Dieu lui donne le royaume au moment voulu, au moment choisi par lui. Il a supporté l'injustice sans se venger. Malgré les calomnies et la traque, David a continué à honorer Saül comme roi. Il a gardé la foi dans les promesses de Dieu. Et quand on lit ces psaumes, on voit le reflet de cette patience qu'il avait en Dieu. Il est vrai, il est sincère avec lui-même et avec Dieu. Mais il ne s'empêchait pas d'exprimer ses angoisses, ses peurs, ses doutes, et aussi d'affirmer sa confiance inébranlable en Dieu. Oh, que j'aime David. J'aime le cœur de David, j'aime son authenticité. On peut tellement se retrouver bien dans ses écrits. Sa patience nous enseigne que l'attente n'est pas une perte de temps, mais un temps de préparation, un temps de formation. Elle nous montre que la fidélité de Dieu est plus importante que la délivrance rapide. La patience forme notre caractère et nous rend dépendants à Dieu. Nous ne sommes pas dépendants de nous-mêmes. Nous n'avons pas nous n'avons pas tous les éléments entre nos mains pour supporter nos épreuves. Et à plus forte raison, nous nous devons de nous appuyer sur Dieu. Et lorsque les épreuves se présentent devant nous, prenons-les comme un temps de préparation. On a le droit de demander à Dieu, « Seigneur, est-ce que parfois tu peux raccourcir ce temps de préparation ? Est-ce que c'est long parfois ?» Mais c'est légitime de le demander. « Seigneur, peux-tu raccourcir un peu ce temps de préparation ?» Ou on peut apprendre vite aussi. Plus on apprend vite, plus le temps va se raccourcir. Et je termine avec Jésus-Christ. Hébreux 12, verset 2 dit, Jésus qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Jésus lui-même, fils de Dieu, en qui il n'y a aucun péché, a fait preuve de patience tout au long de sa vie jusqu'à la croix. Il a supporté les injures des chefs des prêtres, des anciens, des voleurs cloués à côté de lui. Il se savait dans le plan parfait de Dieu. Et il savait que Dieu lui réservait une joie qui ne voulait laisser personne lui voler. Est-ce que vous savez que dans nos épreuves, l'ennemi cherche à voler notre joie? Et lorsqu'on perd notre joie, c'est la chose la plus terrible qu'on puisse expérimenter. On n'a plus goût à rien du tout. Et Dieu veut préserver notre joie en nous donnant d'être patients dans nos épreuves. Romains 8, verset 24-25 va dire ceci. « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Nous l'attendons avec persévérance. La patience, hypomonaie, comme on l'a dit tantôt, est une espérance ardente qui permet d'endurer les difficultés sans résignation, car la gloire se trouve en vue. À la fin de la patience, il y a une gloire qui est destinée à celui qui attend patiemment. Et la patience naît de la conviction que Dieu tient ses promesses et conduit l'histoire selon son plan. C'est la capacité de dire, je ne comprends pas tout, mais je fais confiance. Je garde ma foi en Dieu. Je continue de m'appuyer sur lui, le rocher de ma foi, celui qui est inébranlable, celui qui est digne de confiance et d'adoration. Amen. Et certains d'entre nous pourraient croire à tort que la patience est une faiblesse. Ou du moins, c'est ce que la société d'aujourd'hui essaie de nous faire croire, que être patient, c'est un signe de faiblesse. Je veux vous dire ce matin que loin de là, la patience est une posture de foi. C'est une attitude de foi qui repose, pas sur nous-mêmes, mais sur la confiance en Dieu. On n'est pas patient parce qu'on veut être patient. On est patient parce qu'on s'appuie sur Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 13, je ne pense pas l'avoir mis dans la diapo, dit ceci, « Aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Amen. Alors que nous traversons tous parfois des épreuves, souvenons-nous que nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces, au-delà de nos capacités. Dieu ne le fera jamais. Il nous donne ce que nous sommes capables de prendre. S'il nous le donne, c'est parce qu'il sait qu'on est capable de le prendre. Et il ne nous laisse pas seul le porter, mais il porte ce fardeau avec nous. Il se tient à nos côtés. Est-ce que le Dieu qui fait cette promesse est-il digne d'être pris au sérieux? Amen. Il est digne d'être pris au sérieux. Il est digne de notre confiance et de notre louange. Bien-aimés, même si la société dans laquelle nous sommes nous conditionne et nous pousse à être de plus en plus impatients, résistons. Résistons fermement et cultivons la patience. Et rappelons-nous que Dieu a déposé une semence, ne serait-ce que petite, de patience dans notre cœur. Et nous devons de la cultiver, nous devons de l'arroser saison après saison. Saison après saison, attendons-nous à Dieu, il se manifestera. Écoutez ce que Jacques 5, verset 7 lui dit. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. D'autres versions vont dire les pluies du printemps et de l'automne, saison après saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Affermissez vos cœurs. Ici, Jacques invite en premier tous les chrétiens persécutés, opprimés, et plus largement encore, tous les croyants que nous sommes et qui passons par des épreuves, à prendre patience, car le Seigneur va revenir bientôt. Il va revenir bientôt. Et il a de belles choses en réserve pour chacun de nous. Il invite les chrétiens que nous sommes à ne pas perdre espoir dans nos épreuves. Saison après saison, redoublons encore d'efforts à cultiver et à développer notre patience dans l'attente de l'intervention de Dieu et de son glorieux retour. Cette patience nous permettra de renoncer à se plaindre des uns des autres, car Dieu qui juge est à la porte. La Bible dit que nous serons servis avec la même mesure que nous servons les autres. Alors, si nous voulons que Dieu use davantage de patience à notre égard, nous nous devons d'user de patience à l'égard des autres également, à l'égard de nos frères et sœurs, à l'égard de notre conjoint, de notre conjoint, de nos enfants, de nos amis, dans nos relations. Faisons preuve de beaucoup de patience. Et prenons exemple sur tous ces hommes et femmes de foi que Dieu met autour de nous. Ces modèles que l'on retrouve dans la parole. Abraham, Joseph, David, Job, Jésus lui-même, Paul, Anne, Marie, la mère de Samuel, ont tous été des hommes, des femmes qui ont expérimenté la patience et qui ont expérimenté la grâce de Dieu, le secours de Dieu, alors qu'ils ont patienté en attendant l'intervention de Dieu. Je vais inviter les musiciens à me rejoindre. Et je veux terminer avec ce dernier passage qui nous rappelle combien Dieu est patient à notre égard. Romains 2, versets 4 à 7. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Amen. Comment pouvons-nous attendre Dieu si nous n'avons pas la patience ou si nous refusons de la cultiver? Peut-être es-tu là ce matin et tu as si longtemps méprisé la voix de Dieu, son appel à venir à lui, à lui ouvrir ton cœur afin qu'il vienne y habiter, afin qu'il vienne te guérir, afin qu'il vienne te restaurer, te relever, t'encourager, te conseiller. Tu as longtemps résisté, mais ne pense pas que Dieu t'a oublié. Sa patience est une preuve qu'il veut te donner du temps pour que tu viennes à lui. Il est lent à la colère, mais il est riche en bonté. Il est riche en grâce. Et son appel pour toi ce matin, dans ton épreuve, dans ta difficulté, dans l'étau qui te resserre et dans lequel tu n'arrives même plus à respirer, Dieu t'appelle à entendre sa voix ce matin. Il cogne à la porte de ton cœur. Il veut renouveler cette semence de patience qu'il a déposée en toi. Il veut t'apprendre à nouveau à dépendre de lui, à lui faire pleinement confiance, même si tu ne comprends pas tout, même si ça fait mal. Il veut être là avec toi ce matin. Il est ce Dieu, comme Pasteur Simon l'a dit la semaine dernière, qui a horreur du péché, mais qui aime le pécheur. Et face au péché, parfois la patience de Dieu peut avoir des limites. Et il nous appelle à lui. Il nous appelle à lui. Il nous appelle à ouvrir nos cœurs à lui. à le laisser faire l'œuvre que lui seul est capable de faire. Je ne prends pas ce sujet à la légère parce que je sais que quand on traverse les épreuves, on est parfois à un doigt de renoncer même à notre foi. Plusieurs parmi nous prient depuis des années pour la conversion d'un fils, d'une fille, d'un conjoint, d'une conjointe, d'un membre de la famille. Et c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Et on est tellement conscient de la réalité que le Seigneur reviendra un jour pour prendre son église. Et tu ne veux pas que les gens que tu aimes manquent le train. Et tu es dans la prière continuellement pour que ces personnes se tournent vers Dieu. Et ce matin, je veux donner cette parole d'encouragement à cette personne qui prie. Tu fais ta part et tu ne sais pas ce que Dieu fait dans le secret. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire dans le cœur de cette personne pour laquelle tu pries. Toi, tu vois juste à l'apparence. Mais il y a une œuvre qui se passe dans le cœur de cette personne. Et c'est Dieu qui amène cette œuvre à maturité. Sois juste patient. Attends-toi à lui. Continue à persévérer dans la prière. Et tu verras sa gloire. Amen. Je vais terminer avec un dernier récapitulatif sur les bienfaits de la patience de Dieu avant qu'on se sépare. Cultiver la patience dans une relation sincère avec Dieu, c'est forger sa confiance en Dieu. Et cette confiance forgée en Dieu fait éclore en nous la persévérance dans nos épreuves. Elle nous permet de développer la maîtrise de soi qui nous permet de rejeter la précipitation. La tentation de vouloir se faire vengeance soi-même ou de vouloir aider Dieu en faisant des choix qui ne l'honorent pas. La patience renforce notre espérance dans les promesses de Dieu. Et plus nous la cultivons, nous devenons semblables à notre modèle par excellence qui est Christ. Alors si nous voulons ressembler davantage à Christ, cultivons la patience, bien-aimés dans la foi. Cultivons la patience. Mettons tous les efforts nécessaires afin que cette patience puisse porter du fruit. Voulez-vous avoir plus de patience dans votre vie, dans vos épreuves, dans vos défis, dans vos challenges de tous les jours, que ce soit au travail, à la maison, dans les relations, mari et femme, avec enfants, dans nos relations professionnelles? On sait combien parfois l'étau peut être serré. Est-ce qu'on veut avoir plus de patience? Je crois que la question n'est pas d'avoir plus de patience, mais c'est d'avoir tout simplement la patience. D'avoir tout simplement la patience. Et si c'est votre désir ce matin, si vous soupirez ce matin, être rempli de la présence de Dieu, cette présence qui amène la patience, je vais juste vous inviter à vous lever avec moi. Et Dieu dit, celui qui cherche, trouve. On donne à celui qui demande. On donne à celui qui demande et qui demande de tout son cœur. Et ce matin, alors que la musique va jouer tranquillement, tournons-nous vers Dieu. Cherchons-le de tout notre cœur. Soupirons après lui. Demandons-lui de venir guérir nos blessures. Ces décisions que nous avons prises dans la précipitation, l'attente dans laquelle nous sommes présentement et qui semble être longue, cette situation qui ne se résout pas et pour laquelle on a perdu espérance. Ouvrons nos cœurs ce matin. Laissons Dieu nous visiter ce matin. Laissons Dieu nous toucher ce matin comme on l'a désiré au début de ce culte. Laissons Dieu visiter chacun de nous ce matin et faire ce que lui seul est capable de faire. Alors que tu es là, prie à ta place. Tu sais ce dont tu as réellement besoin. Élève ta voix. Élève ta voix. Ouvre-lui ton cœur. Reçois-le à nouveau. Peut-être que tu t'es égaré à cause de la souffrance, à cause de la persécution, à cause des épreuves. Il t'appelle ce matin à revenir à lui. Il te tend sa main ce matin. Il veut t'accueillir à nouveau et te remplir à nouveau de sa grâce et de ta paix. Seigneur, je te remercie ce matin. Je te remercie pour ta présence au milieu de nous. Je te remercie pour ton œuvre que tu fais en nous ce matin, à l'instant même, pour les guérisons que tu opères dans les cœurs, dans les pensées, dans les vies. Pour le soutien que tu apportes à mon frère, à ma sœur, dans son épreuve, dans son défi. Seigneur, tu sais combien nous avons besoin de patience. Tu sais combien nous avons besoin de persévérance alors que nous nous attendons à toi. Ne permets pas que nous soyons tentés au-delà de ce que tu nous donnes comme force. Donne-nous de nous rappeler sans cesse que tu es avec nous dans la barque, que tu nous soutiens, que tu nous relèves même lorsque nous tomberons, que tu nous donnes ta joie et ta paix, que tu es le roc inébranlable sur lequel nous pouvons nous appuyer. Donne-nous en tant qu'Église ce matin de nous appuyer sur toi. Donne-nous en tant qu'Église ce matin de cultiver la patience dans nos relations les uns avec les autres, dans notre attente de tes réponses. Donne-nous, Seigneur, de nous attendre à toi, de goûter à ta grâce, de vivre pleinement toutes les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Seigneur, ne laisse personne sortir de ce lieu sans être touché, sans être visité, sans être renouvelé par ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais ton œuvre au milieu de nous ce matin. Visite-nous ce matin. Nous soupirons après toi. Et tu vois cette personne qui est au bout d'éclater, de briser en plusieurs morceaux. Seigneur, relève cette personne. Relève-la. Garde cette personne dans les creux de tes mains. Et que toutes les œuvres de l'ennemi contre sa vie soient sans effet dans le nom de Jésus. Que tous les traits enflammés de l'ennemi contre nos vies ce matin soient éteints au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci de construire un muraille tout autour de nous et de nous garder fermes dans la foi que nous avons mis en toi. Tu es digne de notre louange. Tu es digne de notre adoration. Et tu es digne de notre confiance. Nous ne le donnerons à personne d'autre que toi. Nous nous attendons à toi aujourd'hui, demain et jusqu'à ton retour dans le nom de Jésus. Amen. Amen.